On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Comment construire et vivre sainement? Notre habitat a un impact sur la santé de l'homme et celle de l'environnement. Le lieu d'implantation, les matériaux de construction utilisés, l'orientation de la maison sont autant de contraintes à prendre en compte. Carbone Zéro vous propose une approche analytique et tellurique d'un terrain, par M. Christmann, le président des sourciers et géobiologues d'Europe. Et pour mieux comprendre l'analyse biotique et bioclimatique, tout de suite, M. Vandel. Michel Vandel, bonjour. Donc vous êtes responsable de l'agence 68 de Bioespace.
Oui, Bioespace est un centre d'études en bioarchitecture. Donc nous concevons et réalisons des maisons à vocation écologique et biologique. Nous faisons également de la formation et des missions d'assistance conseil en tant que conseil en bâtiment écologique.
Donc quand on parle aujourd'hui de biologie de l'habitat, qu'est-ce qu'on entend par la biologie de l'habitat?
Alors la biologie de l'habitat est une démarche qui prend en compte l'ensemble des paramètres environnementaux pour nos choix en tant que professionnels du bâtiment, nos choix de matériaux, nos choix de technologie, nos choix conceptuels, nos choix d'implantation des bâtiments sur un sol. La biologie de l'habitat, en fait, s'appuie sur le respect de la vie. Alors, bien sûr, ça a été au début une des grandes questions que l'on s'est posée. Qu'est-ce que la vie, hein? Alors, sans avoir derrière nous des biologistes, des physiciens, des astrophysiciens, on a essayé modestement, en tant que professionnel du bâtiment, de définir simplement les conditions qui font que la vie peut s'épanouir et se développer. Donc, en fait, la biologie de l'habitat s'appuie sur le respect des quatre cycles naturels majeurs de notre tradition occidentale, avec le cycle de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Et en fait, tout part de là, hein, puisque l'être humain est le résultat de milliers d'années d'évolution, et nous sommes nous-mêmes un composé d'un corps rempli de 70% d'eau. Nous avons un squelette minéral, donc qui tire son origine de la Terre. Nous avons besoin d'air chaque jour grâce à l'activité de nos poumons et de notre peau. Et nous avons aussi besoin d'énergie et de chaleur. Donc vous retrouvez les quatre éléments inscrits dans notre fonctionnement corporel. L'air, l'eau, la Terre qui sont des éléments matière et le feu qui est le dynamiseur.
Ces quatre éléments, c'est quelque chose qui ne nous est pas inconnu. On entend beaucoup parler des éléments dans la médecine ou en Chine notamment.
Alors les Chinois, évidemment, avaient cette culture depuis très longtemps. Alors les Chinois, ils rajoutent l'élément bois et l'élément métal. Mmh. Hein, donc c'est une démarche également qui s'exprime dans le bâtiment. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Feng Shui, hein, qui est une démarche asiatique pour le bâtiment.
Est-ce que le feng shui entre en compte dans la construction d'un habitat?
Absolument.
Enfin, on peut on peut choisir de la faire rentrer en compte ou ne pas la faire rentrer en compte, j'imagine.
Voilà. Mais la biologie de l'habitat reprend certaines caractéristiques du feng shui. Elle l'exprime autrement, hein, puisque nous sommes d'une culture occidentale et donc nous utilisons les termes appropriés à notre monde occidental.
Depuis combien de temps l'homme se préoccupe du lieu d'implantation de sa demeure?
Alors, dans notre monde occidental, les premières démarches ont vu le jour dans les années 70, avec la première crise de l'énergie, avec le mouvement hippie aussi, qui essayait de retourner aux sources concernant notre bien-être. Ensuite, vous avez une démarche qui s'est développée en Allemagne avec la Baobiologie, donc qui a commencé à définir un ensemble de critères pour le bien-être de l'habitant dans l'habitat. Et puis, plus près de chez nous, suite au congrès de Rio en 1992, où le développement, la notion de développement durable est apparue. Les professionnels du bâtiment ont exprimé cette démarche par la HQE, par la haute qualité environnementale, qui actuellement est en cours, hein, et s'exprime principalement dans les gros bâtiments, dans les grands ensembles, dans les grands projets.
Donc tout ça sont des données relativement récentes, mais l'homme prenait déjà en considération le milieu d'implantation de son habitation bien avant ces textes.
Tout à fait. On s'aperçoit que intuitivement, l'homme savait définir où mettre ses espaces de nuit ou ses espaces de jour. Quand vous remontez à l'histoire, par exemple, du troglodytisme, hein, donc les premiers hommes qui habitaient dans les grottes, eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait des grottes spécifiques pour garder les aliments, des grottes pour dormir, des grottes pour prier. Et déjà, nos ancêtres connaissaient et avaient le ressenti indispensable pour bien habiter.
Donc une intuition qu'on a perdue avec le temps.
Oui, c'est exact. Nous nous sommes coupés de plus en plus de la nature, hein, des éléments. Du végétal, des éléments de l'air, de l'eau, hein, de la terre. Petit à petit, effectivement, notre intellectualisation nous a coupés de cette origine et nous avons besoin maintenant, pour y retourner, d'instruments de mesure pour exprimer la qualité ou la non-qualité d'un espace bâti ou d'un espace naturel.
Monsieur Chrisman, bonjour.
Bonjour.
Alors là, on est en extérieur sur le parking à côté des locaux de la radio. Et vous avez dans les mains quelque chose d'un petit peu surprenant. Alors vous, auditeurs, vous n'avez pas forcément l'aspect visuel, mais on va essayer de vous décrire l'objet.
Voilà, donc là, nous avons deux types de baguettes. Des baguettes coudées, comme vous avez déjà pu voir, souvent des tiges de laiton plié ou des baguettes de soudure pliées, donc qui permettent tout simplement de détecter les ondes. Et une autre baguette, donc qui est la baguette traditionnelle du sourcier, celle qui est reliée à son extrémité par un lien, ici un petit capuchon d'aluminium. Et donc sa flexibilité va permettre, hein, donc cette flexibilité était avant bien sûr tout simplement le bois du noisetier, qui était relativement vert et souple, et qui permettait donc d'obtenir de la souplesse et qui nous permet d'exprimer tout simplement ce que nous allons sentir sur le terrain.
Alors c'est marrant, sourcier, sorcier, est-ce que c'est la même origine? Parce que ça fait un peu sorcellerie quand on voit cette baguette qui bouge toute seule.
Bah, je pense qu'on est toujours du côté encore obscur, quoi, c'est-à-dire dans le sens où effectivement la science n'a pas encore expliqué comment ça fonctionne. On dirait qu'il y a une part d'intuition, il y a une part de ressenti. Tout ça aujourd'hui, c'est pas du tout expliqué. Donc dans des temps plus reculés, on a pu associer ça effectivement au côté obscur. Et donc d'où le côté sourcier, finalement, il n'y a qu'une lettre qui nous sépare. Néanmoins, le sourcier, lui, ne fait que chercher, détecter, alors que le sorcier est clairement dans l'action.
Alors, donc c'est bien d'ondes qu'on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va essayer de tenter de faire sur le terrain où on est?
Le terrain ici, on voit donc c'est de la friche industrielle donc qui est réhabilitée. Et donc, il y a des bâtiments qui ont été réhabilités. Mais par contre, il y a de l'espace qui va être réutilisé pour des maisons. Et donc, nous allons essayer de voir ce qui se passe sur ce terrain. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie propice ou nocive pour par rapport à l'implantation d'une maison d'habitation, c'est-à-dire un lieu de vie.
Donc ce qui est intéressant, sur un terrain qui paraît complètement neutre à l'œil nu, il y a donc quelque chose de plus subtil qui se passe, on parle d'ondes ou d'énergie.
Oui, absolument, on parle d'ondes et d'énergie, tout ça c'est encore pas très bien défini, tout simplement parce que on est dans le monde invisible, donc pas palpable, pas mesurable avec les instruments technologiques dont on dispose aujourd'hui, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on n'entend rien, à part les oiseaux et un peu de vent. Néanmoins, voilà, par contre, il y a quand même l'espace qui est là, et dans cet espace, il y a eu ici, on sent bien qu'il y a eu des bâtiments avec de la production, hein, il y a du travail, il y a de l'esprit, il y a vraiment un esprit de travail, une agitation qui est présente dans ce lieu, alors qu'il est ici visuellement complètement vide.
Donc le biohabitat va prendre en considération l'ensemble de ses contraintes environnementales pour trouver un emplacement adéquat à la vie humaine, à sa santé et à la santé de l'environnement aussi.
Tout à fait. Donc là, si vous voulez, si vous êtes candidat à construire sainement, la première étape consiste à étudier le terrain, Hein, donc on appelle ça une analyse biotique de terrain qui va mettre en évidence les espaces les mieux vitalisés sur un terrain. Ça passe par un certain nombre de mesures. On va mettre en évidence la présence d'eau souterraine, les fractures de sol, la qualité géologique du sol. On va mesurer les pollutions artificielles électromagnétiques, hein, qui sont de plus en plus présentes dans notre environnement. Et donc là, c'est la partie analyse bioclimatique où on va s'intéresser aux opportunités solaires et aux agressions du climat qui sont présentes sous nos latitudes.
Donc ça, c'est la première phase avant de construire un habitat sain, d'aller vérifier donc, l'emplacement, le lieu. On parle de biotope, hein, le lieu dans lequel on souhaite implanter sa future habitation.
Oui, alors le biotope est un terme un peu plus général hein, qui inclut l'équilibre naturel à travers le biotope des plantes, les animaux. Hein, mais c'est vrai que par l'observation des végétaux et des animaux, cette observation peut nous donner de multiples renseignements sur la qualité vitale du terrain, puisque les animaux, comme les végétaux, réagissent au tellurisme du lieu, hein, donc à l'énergie qui est issue de la terre, des profondeurs de la terre. Et par exemple, une fourmilière est synonyme de présence d'eau ou de faille en profondeur.
Donc là, ça relève de la géobiologie hein, qui va repérer les réseaux Hartmann et Curie ou encore d'autres, hein, ces réseaux qui sont sous la Terre. C'est un petit peu ça, l'écologie ou la biologie de l'habitat, c'est un mélange de géobiologie ?
Alors effectivement, on se réfère aussi à la géobiologie, mais on va plus loin. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu en fait que dans la nature, vous avez des espaces qui sont... on va dire non approprié à passer du temps. Hein, c'est tout ce qui est zone d'eau souterraine, les failles, les fractures de sol, les réseaux telluriques, comme vous avez énoncé, les réseaux Hartmann, réseaux Curie.
Est-ce qu'on arrive à l'expliquer, ça ? Pourquoi, dans ces lieux-là, il est déconseillé d'y passer du temps ?
Eh bien, on s'aperçoit que lorsque un être humain passe du temps sur ces lieux-là, en fait, il se passe biologiquement à l'intérieur du corps des changements. Vous avez les glandes endocrines qui vont avoir leur fonctionnement modifié, des hormones qui vont être sécrétées en plus ou moins fort. Hein, donc il y a réellement des changements biologiques qui s'effectuent. Et puis ensuite, il y a un constat depuis que l'on fait des analyses de maisons aussi, des maisons existantes, mais on s'aperçoit que des gens développent des pathologies parce que leur lit est mal placé, parce que leur chaise de bureau n'est pas au bon endroit.
Bon, on va y aller. Donc, je voudrais juste de commenter un petit peu ce que vous faites hein, pour que vous, auditeurs, puissiez avoir un aperçu visuel. À vous de faire travailler votre imaginaire pour deviner ce qui se passe ici, là.
Bien, donc là je prends ma baguette de sourcier, donc la baguette en plastique qui me permet de chercher les passages d'eau et donc en me déplaçant sur le terrain, donc là en faisant simplement quelques mètres, mais en réalité bon je me suis placé là parce que je l'avais déjà senti en arrivant sur le terrain, là je rencontre une veine d'eau, donc ma baguette se met instantanément à la verticale. Et je la retiens, bon bien sûr, sinon la baguette tourne dans les mains, hein, donc vous avez souvent remarqué qu'il y a des sourciers, la baguette, dès qu'il y a un passage d'eau, la baguette tourne dans les mains, bon là je la retiens, et lorsque je continue de me déplacer, je vais retrouver l'autre rive de ce passage d'eau souterrain, donc là je vais parcourir quand même un peu, pratiquement 2 mètres, et donc j'ai bien sûr, j'ai déterminé les rives d'un passage d'eau souterrain, ce passage d'eau, je regarde d'où il vient, donc il vient globalement du nord, enfin il est orienté nord, je regarde de l'autre côté, il est orienté sud, donc là on se retrouve clairement sur un passage d'eau qui se trouve dans la nappe phréatique, puisque la nappe phréatique d'Alsace vient des Alpes, et se dirige tranquillement vers la mer du Nord, donc en suivant le Rhin.
C'est vrai que j'ai du mal à comprendre ça, parce que la nappe phréatique est un peu présente partout dans la plaine d'Alsace, donc il y a de l'eau en Alsace, hein. On a une nappe phréatique très importante, peut-être une des plus importantes de France, Donc, dans cette nappe existent des courants.
Absolument. Et déjà, la nappe phréatique est très importante puisqu'elle est, elle regroupe plusieurs pays européens et donc elle est la nappe phréatique la plus importante d'Europe. Et, mais par contre, cette nappe n'est pas distribuée régulière. C'est-à-dire que le sous-sol, bien sûr, bah, ce sont des alluvions qui se sont formées sur pratiquement 40 millions d'années. Donc ce sont des fines couches, donc il y a du sable, il y a du gravier grossier, il y a du gravier fin, il y a du limon, donc de l'argile, de la terre glaise, de la marne bleue, donc différentes, et d'une couche d'humus par-dessus. Enfin, et encore même par tranche, comme un feuilleté, et l'eau donc se trouve là-dedans, mais néanmoins ce n'est pas comme une baignoire où il y a de l'eau partout. L'eau se prend la place qui est libre, hein. Donc du coup, comme il y a un poids quand même, un poids d'eau, l'eau vient des Alpes, et cette eau donc pousse, comme dans une rivière, pousse vers le point le plus bas, et donc l'eau suit le cours du Rhin, et donc la nappe avance de quelques mètres par an, d'une trentaine de mètres par an, et néanmoins il y a comme des rivières souterraines, tout simplement parce que l'eau va trouver des passages particuliers qui lui permettent de prendre de la vitesse et d'avoir un débit relativement suffisant. Ces débits d'ailleurs permettent aux communes de puiser des centaines de mètres cubes à l'heure sans problème.
Donc là, on l'a vu, hein, c'était très net, en se déplaçant de quelques mètres seulement, la baguette a instantanément réagi en passant sur ce cours d'eau. Est-ce qu'on a un moyen de déterminer sa profondeur ?
Absolument. Donc là, je prends tout simplement cette baguette, je me remets sur le passage d'eau, et je vais compter. Donc, par contre, là, cette fois-ci, je ne cherche plus l'eau, c'est-à-dire en tant que limite, par contre, l'eau en tant que profondeur. Donc, et là, je vais chercher, je me projette en réalité dans le sol, c'est une forme de visualisation. Et là je vais donc compter, et donc cette rivière là, on peut appeler ça rivière souterraine, donc va se trouver, donc là je compte, donc 1, et en même temps je tape du pied pour me donner un certain rythme, tout simplement, ça n'a pas une importance, c'est pas très important, mais ça me permet d'avoir un rythme, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ouais, 15. 15, la baguette est pratiquement verticale. Donc là, je peux ralentir, c'est plus que 15. Donc là, je pose aussi des questions, oui, non. Hein. Donc j'ai une réponse, la baguette se lève, c'est une convention que je me suis fixée. Quand la baguette se lève, c'est un oui. Donc plus que 15 mètres, oui. Moins, plus que 16, non. Le début, non. Donc 15 mètres, 10, 20, 30, 40. Allez, 15 mètres, 50. Le début de la veine d'eau, donc jusqu'à... 16, 17, 18. Après, oui, après, on doit être pratiquement sur une partie de la nappe. Donc, on a une couche qui est entre 15 mètres 50 et 16 mètres 10. Donc, vraiment une couche d'eau donc, qui constitue cette rivière. Et ensuite, je retrouve, bien sûr, le reste est mouillé. Hein. Donc, clairement, il y a de l'eau. Néanmoins, il n'y a plus de débit. Et donc, là, en dessous de ces 16 mètres, il y a de la présence d'eau, mais qui n'a pas de débit.
Donc on peut imaginer que la nappe phréatique est à 16 mètres de profondeur et avec à cet endroit un passage d'eau courante.
Voilà, non mais par contre ici la nappe phréatique est déjà beaucoup plus haute. Donc ici je vais déjà la retrouver donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 7, 8 mètres de profondeur. Mais la rivière que j'ai détectée se trouve elle donc à 15 mètres 50.
Alors par contre ce que je voudrais dire, ce qui est important, c'est que la nature est bien faite. Elle le génère, donc on l'a vu, des espaces... dynamiques, mais tellement dynamiques qu'ils sont inadaptés à passer du temps. Et la nature rééquilibre toujours par d'autres espaces, qu'on appelle des espaces soit équilibrés ou des espaces vitalisants. Et c'est surtout là-dessus qu'on va travailler. Parce qu'on s'aperçoit que notre biologie, sur ces endroits-là, s'exprime parfaitement et que l'agression des failles ou de l'eau eh bien, disparaît. Est neutralisé par ces espaces bénéfiques. Hein. Donc en biologie de l'habitat, on parle beaucoup de ce qui va bien hein, sur le terrain, plutôt que de ce qui va mal. C'est extrêmement important aussi pour la vision du terrain. Quand vous avez un maître d'ouvrage qui achète un terrain, il s'endette pour de nombreuses années. Et il est important qu'il fasse connaissance de toutes les qualités de son terrain pour bien se l'approprier.
Donc là, j'ai effectivement ma baguette qui se lève. Donc là, ma question n'est plus, bien sûr, de chercher de l'eau, mais ici, je cherchais une cheminée cosmotellurique. Et lorsque je me déplace à l'intérieur, je vais retrouver l'autre côté de cette cheminée. Là, pareil, on retrouve plus de 2 mètres, 2 mètres 20 de rayon. Et donc, et lorsqu'on va se placer à l'intérieur de ce cercle, finalement, donc c'est un volume, c'est comme une cheminée donc qui est dressée. Et lorsque nous sommes à l'intérieur ici, on se sent quand même beaucoup plus léger que ce que nous avons pu être tout à l'heure sur le parking. Et d'ailleurs, nous sommes encore d'ailleurs sur le passage d'eau qu'on a vu tout à l'heure. Néanmoins, ici, on se retrouve beaucoup plus léger que ce qu'on a pu vivre juste à l'instant sur quelques mètres à côté.
Donc si on veut faire une sieste, il vaut mieux venir la faire ici que juste à côté.
Absolument, oui. Et puis là, je sens effectivement, rien qu'à écouter ce qui se passe dans le sol, je sens une chaleur qui monte dans les jambes. On sent bien qu'il y a une circulation énergétique qui est bien présente et tout à fait positive, très joyeuse, très... Alors qu'on est toujours dans le même environnement, ex-industrie, donc ça c'est la nature. Alors on retrouve ces points d'énergie un peu partout. Bon, il n'y a pas de fréquence ou de régularité dans la présence de ces cheminées cosmotelluriques. C'est là, on ne sait pas d'où ça vient. On pense que ça vient de quelques dizaines ou centaines de mètres de profondeur, puisque la croûte terrestre fait 27 000 et 30 000 mètres d'épaisseur en moyenne. Après l'univers n'a pas de limite. On sait simplement que cette origine vient bien du sol donc se projette à la verticale et ensuite on a donc on sent une énergie qui monte, une énergie qui descend. Bon, ça c'est un peu pour différencier les choses. Pour ma part, je trouve que plus on différencie les choses, plus ça devient difficile puisqu'on se remet dans un esprit trop cartésien qui va te découper. L'esprit scientifique a toujours un peu ça a toujours fixé des cadres de recherche, et lorsque nous prenons des cadres, nous avons du mal à en sortir puisque sinon les définitions ne sont plus justes. Donc il faut bien simplement être là, être et là, c'est deux mots bien précis. Mais surtout, mais précis, mais ouvert. Et pouvoir simplement vivre ce qu'on a au point de vue ressenti à cet emplacement-là. Ici, on sent bien vraiment beaucoup une légèreté que nous n'avons pas du tout à côté, puisque là, le lieu n'est pas fantastique pour construire une maison où on va pouvoir vivre et se ressourcer. Néanmoins, à cet emplacement, là, c'est clairement l'emplacement. On placerait peut-être pas un lit, parce que le lit, c'est pour se retrouver soi-même, c'est pas pour se retrouver aux oiseaux ou... on ne cherche pas à vivre dans une cathédrale. Non, on cherche simplement à se retrouver soi-même. C'est bien la notion de ressourcement. Néanmoins, ici, c'est bien l'emplacement pour un fauteuil, pour éventuellement un espace de méditation ou de yoga pour les personnes qui pratiquent des arts, des disciplines de ce type-là, qui leur apportent une légèreté d'esprit et de corps.
Mais comment est perçue cette vision un peu ésotérique, j'ai envie de dire, de l'environnement? C'est une approche assez ésotérique de l'environnement, alors que construire quelque chose, c'est plutôt quelque chose de très matériel comme démarche.
Alors le côté ésotérique n'existe plus, puisque c'est vrai que notre civilisation a développé des outils géophysiques, scientifiques, qui permettent, avec des instruments de mesure, de mettre en évidence précisément la position, la profondeur... des courants d'eau souterrains, la présence de failles géologiques. Donc on a des appareils de mesure pour les pollutions électromagnétiques, donc c'est quelque chose qui est mesurable, qui peut se répéter, donc revérifiable. Ensuite, au sein de Bioespace, on a développé un protocole en fait d'analyse qui permet aussi de faire des tests musculaires, de faire des tests biologiques sur la personne, pour que la personne prenne vraiment conscience qu'à cet endroit, elle peut dormir, elle peut passer du temps, tandis qu'à un autre, c'est pas adapté, et puis c'est plutôt adapté pour circuler, pour un escalier, pour un placard, ou d'autres choses.
Donc la biologie de l'habitat concerne seulement des nouveaux espaces d'habitation qui vont être créés, qui vont être construits, ou est-ce qu'on peut aussi appliquer la biologie de l'habitat à des habitations, des maisons qui existent déjà ?
On peut appliquer la biologie de l'habitat à des maisons existantes. Donc on est souvent sollicité pour intervenir dans des bâtiments existants où les personnes eh bien, ont un certain mal-être et se demandent, ben oui, peut-être que c'est mon habitat qui me rend malade. Donc on intervient.
Alors dans les croyances populaires, on entend souvent dire que justement, construire sur un courant d'eau, c'est quelque chose de pas bon.
Oui, c'est pas bon parce que donc c'est vraiment une perturbation. Alors bien sûr, c'est une perturbation invisible, mais on peut imaginer par exemple que nous puissions être à proximité d'une rivière, d'un ruisseau, et si vous fermez les yeux, vous allez voir qu'en réalité, le courant de l'eau vous emmène. Tout simplement parce qu'il y a une énergie. L'énergie visible, c'est l'eau qu'on a, H2O, c'est bien cette énergie qu'on voit, qu'on peut mettre en bouteille, qu'on peut toucher. Néanmoins, ce qu'on appelle l'énergie, il y a une énergie qui est, on va dire, moins dense, donc moins accessible à nos sens habituels. Et cette énergie-là, en réalité, suit bien sûr l'eau en tant que rivière. Et donc, vous allez être, si vous fermez les yeux, vous verrez que vous serez entraîné dans le sens de la rivière. Clairement, le courant d'eau vous emmène. Donc le courant d'eau visible, c'est vrai pour une rivière visible, un ruisseau, un fleuve, mais ce sera encore beaucoup plus vrai pour de l'eau souterraine. Et mettez-vous à la verticale d'un courant d'eau souterrain, si vous avez un sourcier un jour qui vous a montré à une source ou à un passage d'eau qui se trouve dans votre jardin, mettez-vous dessus, fermez les yeux, et vous allez voir que vous êtes emporté. Dès que vous laissez aller votre corps, c'est-à-dire votre corps est aussi énergie, donc vous vous laissez aller et donc vous êtes clairement entraîné par ce courant d'eau.
Ça me fait penser à un test de kinésiologie où on demande aussi de fermer les yeux sur certains points et là on sent qu'effectivement on a le corps qui a du mal à se stabiliser.
Oui, tout à fait. Donc le test kinésiologique, bon, il fait appel à une deuxième personne. Donc pour moi, le test kinésio, il faut faire attention dans le sens où il y a toujours le praticien qui, lui, n'est pas indépendant de la mesure, puisqu'il peut être lui-même perturbé. Donc qu'est-ce qui est juste? Là, on peut se poser la question. Alors que quand vous le faites tout seul, vous êtes seul avec la nature et vous vous laissez aller avec l'énergie de présente de l'énergie du lieu, celle que vous retrouverez si vous construisez une maison à cet endroit-là, et vous allez voir que vous partez avec le courant d'eau. S'il y a un croisement d'eau, vous allez voir que vous tournez. Pourquoi ? Parce que il y aura deux forces en opposition, une qui peut venir de droite ou de gauche par exemple, et une qui vient devant ou derrière vous, et donc vous aurez un sentiment de rotation. Et jusque-là, c'est pas très gênant, puisque tant qu'on est dans le quotidien, tant qu'on bouge, c'est pas gênant. Néanmoins, dès que vous êtes en paix dans votre lit, à ce moment-là, vous aurez un lâcher-prise, puisque votre cerveau va se mettre, enfin votre corps va se mettre en sommeil. Et donc, je dirais quelque part l'énergie. Votre corps sera un peu plus énergie avant d'être raisonnement. Et à ce moment-là, vous serez soumis, vous allez les sentir d'abord, en dehors du sommeil. Vous allez sentir ces mouvements énergétiques et éventuellement souffrir dans la mesure où vous aurez du mal à avoir un sommeil profond et réparateur.
Donc il existe différentes perturbations. On parlait des courants d'eau. Donc ça, ce sont des perturbations naturelles. On va peut-être différencier les perturbations naturelles et les perturbations humaines. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore citer comme perturbation naturelle ?
Oui, vous avez par exemple des zones à radon qu'on appelle. Donc, c'est un gaz radioactif issu de l'activité des roches en profondeur. Alors, en Alsace, on n'est pas une zone à risque, mais vous allez dans les Vosges, en Franche-Comté, où il y a d'éventuels risques de diffusion de ce gaz à l'intérieur du bâti. Et ce gaz, en fait, se fixe sur les poussières et est responsable du cancer de poumon après la cigarette. Alors on intervient sur deux plans. Vous avez évidemment le premier plan qui est l'aspect tellurique, au niveau de connaissance de l'énergie issue de la Terre. Et puis, deuxième plan, c'est l'impact du bâtiment sur la santé avec ses matériaux et ses technologies.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro,
une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Comme nous l'avons vu, l'environnement naturel a une influence sur le lieu d'implantation d'un logement. Dans une prochaine émission de Carbone Zéro, nous allons découvrir les perturbations humaines dans l'habitat. Pour plus d'infos, le site des sourciers et géobiologues d'Europe, www.sgeurope.org ou www.bio-espace.com.